Nous pouvons tous le constater par nous-mêmes, la place des personnes handicapées dans la société est mieux reconnue aujourd'hui que par le passé. Des lois et des structures ont été mises en place afin d'assurer une plus juste égalité des droits et une réelle intégration. Pourtant, malgré tous ces progrès, il reste encore beaucoup à faire pour que les personnes déficientes et leurs accompagnants se sentent mieux accueillis dans ce qu'ils vivent au jour le jour. Et c'est justement pour mieux faire connaître leur quotidien, fait à la fois de difficultés mais aussi de joie, que les éditions du Cygne ont tout récemment publié un livre consacré à cette thématique, intitulé « Sur les chemins de la différence », celui-ci a la particularité d'avoir été porté, pensé et écrit par toute une équipe. Alors j'ai justement trois membres de cette équipe autour de la table pour en parler. Marie-Claire Toussaint, Marguerite de Koning et Bernadette Francotte. Bonjour mesdames.
Bonjour monsieur.
Alors je pense que vous êtes toutes les trois concernées par le sujet puisque vous êtes soit grand-mère ou la sœur ou amie ou la maman d'une personne handicapée ou déficiente. Alors je vais commencer par Marie-Claire Toussaint, puisque je pense que vous êtes un peu l'initiatrice de ce projet. Alors pourquoi ce livre et quel a été l'élément déclencheur ?
La première chose, c'est que le livre nous a été demandé par les éditions Don Bosco, mais que directement, on a axé le livre sur le fait que les personnes en situation de handicap, mais autant les personnes elles-mêmes que leur entourage se sentent compris, reconnus, qu'elles redécouvrent des moments de vie qu'elles avaient vécu, des difficultés de même que les joies, et aussi pour démystifier cette approche de la personne handicapée, parce que très souvent, monsieur tout le monde a peur d'une voiturette qui s'avance, et donc on ne sait pas très bien comment on doit faire, est-ce qu'on doit dire bonjour, est-ce qu'on ne doit pas dire bonjour, est-ce que je regarde ou je ne m'en occupe pas. Voilà, ça c'était vraiment
le point de départ. Et comment ce livre est-il devenu un livre choral, je veux dire, un livre à plusieurs voix?
Mais parce que, bon, moi j'ai reçu la demande personnellement et je trouvais que le sujet était suffisamment vaste et très complexe qu'on ne disait pas n'importe quoi et surtout pas n'importe comment et que je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'entoure et d'expériences supplémentaires et de personnes compétentes supplémentaires.
Alors il faut préciser justement pour l'auditeur que c'est un livre où justement plusieurs personnes interviennent. Il y a les personnes handicapées elles-mêmes, il y a les tout proches, il y a parfois les amis, enfin les grands-parents. Donc c'est assez vaste et c'est assez rare finalement d'avoir des livres où on a autant de points de vue différents.
Mais notre but, c'était de fait d'être très ouvert et que le livre puisse être lu par tout le monde. Donc, même si c'est Don Bosco qui l'avait demandé, il n'était pas question de s'arrêter à une certaine confession. On voulait vraiment que ça soit abordable et que ça puisse éclairer tout le monde.
Alors, dans l'introduction de votre livre, vous faites la différence entre handicap et déficience, deux mots que l'on a souvent tendance à confondre. Alors, expliquez-nous en quoi il est important de faire cette distinction.
Le handicap, c'est une situation qui fait que certaines personnes puissent être exclues ou bien que l'on doive amener des aménagements particulier pour cette personne-là. Déficience, c'est en fait, on est gâté de 5, parfois même un 6e sens. Et il y a des personnes dont le sens ne fonctionne pas, mais ça peut aussi être des personnes qui ont des difficultés par rapport à la société. Et donc, là, on va parler de déficience parce qu'il leur manque quelque chose par rapport à la moyenne.
Faire cette distinction, c'est justement, quelque part, dire que le handicap n'est pas une fatalité, qu'il dépend de la société dans laquelle nous vivons.
Oui, en grosse partie, il y aurait bien moyen. Mais il y a quand même des personnes qui ont plusieurs handicaps et que donc c'est peut-être plus difficile. Mais je pense qu'on peut certainement réduire le nombre des personnes handicapées par l'aménagement de la société.
Bernadette Francotte, quand on lit ce livre, on se rend très vite compte qu'il n'est nullement question pour celles et ceux qui témoignent de s'apitoyer sur leur sort. Un chapitre est même intitulé « Plaisir, joie, bonheur ». Alors envisage-t-on autrement ces différentes notions quand on est proche d'une personne handicapée ?
Mais on essaye que la personne puisse participer dans la vie comme les autres. Et moi, en tant que maman d'une petite fille handicapée, j'avais un fils qui avait 2 ans de plus, mais on a toujours essayé de vivre en famille, de pouvoir faire un certain nombre d'activités en famille. Et donc, la petite a eu beaucoup de chance parce qu'elle a toujours été bien acceptée dans la famille et tout le monde, même les petits cousins et tout ça, trouvait toujours une solution pour jouer avec elle, malgré qu'elle était en chaise roulante ou assise par terre. Et il y a d'ailleurs un texte où il est marqué que donc nous partions en vacances avec des amis et tous les enfants jouaient à la pétanque avec elle. Tout le monde s'asseyait par terre et on jouait à la pétanque.
On s'imagine souvent le quotidien des parents d'une personne handicapée comme triste, lourd, etc. Visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a des moments de joie intense.
Ah bien sûr, il y a des moments de joie et c'était un petit rayon de soleil. Et puis nous, en tant que parents, on voulait faire le maximum pour elle et on ne s'apitoyait pas sur son sort, mais on devait vivre en fonction de ce qu'elle était capable de faire.
Marguerite de Koning.
Oui, disons que Gabrielle, dans le livre, elle explique le sens de sa vie qui est fort limité, c'est la foi. Elle dit à un moment donné, la foi m'a fait évoluer en profondeur. Il faut bien penser que c'est une personne qui est dans un dénouement complet, qui parle difficilement, on l'a à cause du respirateur, elle ne peut manger seule, elle ne peut pas boire seule, donc elle est fort limitée. Mais elle écrit dans le livre, j'ai découvert le sens de la vie du chrétien, une vision de la vie tout autre, transcendant toute réalité qui paraît banale. Je poursuis jusqu'au bout de mes forces, la vie dans son essentiel. Bon, on ne peut pas parler de plaisir, mais je pense que le sens qu'elle donne à son handicap lui donne un épanouissement profond. Et ce que je vis avec elle, c'est une relation profonde. Et je pense que c'est un vrai bonheur aussi pour elle comme pour moi. C'est une vraie amitié. Elle me donne vraiment une leçon de vie.
On reviendra plus tard dans cet entretien sur la foi, la religion, la spiritualité, la quête de sens. Marie-Claire Toussaint, dans ce livre, de nombreuses thématiques sont abordées, comme la découverte de la différence, la vie en famille, la solitude, la sexualité, l'autonomie, l'avenir, etc. Quelle est la principale difficulté rencontrée par les personnes déficientes et leurs accompagnants? Est-ce que c'est le regard des autres, de la société?
Je ne sais pas s'il y en a vraiment une principale, mais je pense qu'à le départ. Parce qu'on ne s'attend pas, quand on met un enfant au monde, on n'imagine pas qu'on va mettre un enfant déficient au monde. Ça, on ne pense pas. Et donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui est assez brutal, parce qu'on se rend bien compte qu'on était parti avec un cadeau plein d'espoir, et puis tout d'un coup, c'est tout à fait différent de ce qu'on avait imaginé.
Ça, c'est pour les proches de personnes déficientes, mais pour la personne déficiente elle-même, quelle est la principale difficulté? Est-ce qu'elle ne découvre pas, finalement, sa déficience à travers le regard des autres?
Je pense que ça dépend un petit peu de quelle personne
aussi. De quel type de
handicap aussi, oui. Ça dépend. Il y en a qui l'acceptent, je ne vais pas dire facilement, mais enfin quand même. Puis il y en a qui ne se rendent pas compte non plus. Il y a des enfants, des déficients mentaux qui ne réalisent pas non plus et qui sont vraiment heureux. Il faut voir leur joie de vivre. Enfin, une fois qu'ils arrivent à accepter leur situation, alors là, les choses sont tout à fait différentes.
Mais le regard des autres reste quand même une difficulté importante, je suppose.
Ah, ça reste une difficulté importante, oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer cela? Est-ce que ce livre, j'imagine, y contribue en partie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider?
Mais je pense qu'il y a même un témoignage dans le livre où on dit « va lui dire bonjour, tu ne sais pas comment faire, dis-lui bonjour ». Maintenant, il faut se rendre compte aussi que certaines personnes n'aiment pas qu'on leur dise bonjour et désirent aussi qu'on les laisse tranquilles parce qu'elles se sentent mal regardées, enfin elles le vivent mal. Ça dépend un peu de la façon dont la personne accepte pour elle-même ce qu'elle doit vivre. Mais certainement que de fixer les personnes qui sont en chaise roulante n'est sûrement pas une bonne solution. Si quelqu'un vous sourit, pourquoi pas sourire? Il faut essayer d'un petit peu se mettre à son niveau et la prendre simplement comme une personne. Je crois que la reconnaître comme une personne avant de voir en cette personne un handicap, je pense que ça, c'est peut-être la chose que je dirais un peu principale.
Bernadette Francotte, comment expliquez-vous cette difficulté que beaucoup de nos contemporains ont à entrer en relation avec une personne handicapée? Est-ce que quelque part, il nous renvoie à nos propres limites?
On peut dire déjà que la petite s'en est rendue compte à peu près à l'âge de 3 ans. J'allais conduire mon fils à une activité extrascolaire et donc j'avais cette petite dans les bras et sur le chemin elle m'a carrément dit moi c'est pas marché. Je lui ai répondu oui mais tu sais parler.
Et pour revenir à ma question, pour vous qu'est-ce qui fait justement que les personnes ont tellement de difficultés entre relations? Qu'est-ce qui fait peur finalement? C'est la différence uniquement ou il y a autre chose derrière?
La différence, c'est un malaise. Ils ne savent pas comment réagir devant même un enfant handicapé.
Marguerite de Koning, vous avez un témoignage qui va dans le même sens?
Oui, quand nous nous promenions avec mon frère, il était toujours très souriant, mais nous n'étions pas mal à l'aise parce que nous vivions avec notre frère et tout nous semblait naturel. de l'aider, de soulever sa voiturette. Mais lui, par contre, il défendait farouchement son autonomie. Tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait par lui-même. Mais je n'ai pas ce souvenir d'un regard. Je sais que mon frère était très ironique vis-à-vis de ce regard, parce qu'il avait passé 2 mois de réadaptation à l'hôpital Bruckmann. Il avait eu la polio en 54, donc au moment où le vaccin n'existait pas. Et donc là, c'est vrai que c'était assez nouveau, l'handicap, vu à ce moment-là, dû à la polio. Mmh. Et je me souviens qu'il ironisait vis-à-vis des gens qui le regardaient d'une drôle de façon. Ça, je m'en souviens bien quand on allait lui dire bonjour à l'hôpital Bruckmann.
Alors, Marie-Claire Toussaint, vous êtes la grand-mère d'un petit garçon qui est handicapé. Est-ce que vous avez aussi souffert parfois du regard jeté sur votre petit-fils?
Non, moi personnellement pas. Mais j'aurais bien voulu dire un mot par rapport à ce que Marguerite vient de dire. En fait, je connaissais son frère aussi. Et je reconnais que la première fois que je l'ai vu, moi j'ai eu ce regard de peur, ne sachant pas très bien comment l'aborder. Et je pense qu'au fond, on a l'impression en tout cas de voir en face de nous un être fragile et que ça nous met, nous, face à nos propres fragilités. Je pense, hein, mais c'est comme ça que je le vois. En tout cas, je sais bien qu'au début, j'ai eu peur et qu'il m'a fallu un certain temps pour m'habituer. Chose que je n'ai pas du tout ressentie par rapport à Mario dans le livre. Pourtant, il est en chaise roulante, c'est pas toujours facile, il n'a pas toujours un regard franc et net. On voit bien qu'il a certaines difficultés. Mais moi, je n'ai jamais senti ce regard par rapport à lui. Et je pense que j'ai vu aussi le petit essentiellement comme mon petit-fils et pas du tout comme un enfant porteur de handicap. Et je crois que ça m'a aidé. Et je dois dire que c'est parce que lui m'a appris à le côtoyer, à s'apercevoir que finalement, c'était une personne, un enfant comme un autre enfant, avec les difficultés qu'il avait, ok. Mais ça m'a permis de regarder les autres personnes. Par exemple, quand je suis allée le chercher à l'école la première fois, où là, je me suis trouvée face à une vingtaine de personnes dans des situations très différentes, eh bien, ça ne m'a plus fait peur. Et ça, c'est à lui que je dois.
Et pour les parents de Mario, c'est pareil?
Ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas beaucoup de leur souffrance, en tout cas par rapport aux petits. Et au fond, mon fils me dit, parce que j'ai déjà discuté un peu avec lui en demandant, tiens, enfin, est-ce que c'est pas trop difficile? Et lui, il dit, ben voilà, c'est ma vie. Et au fond, il prend les choses avec finalement beaucoup de sagesse, moi je dirais, une philosophie. Il le dit d'ailleurs dans un des articles, c'est au jour le jour. Et avec le petit, c'est parfois à l'heure, pour ne pas dire au moment même, quoi, parce que parfois, ça ne va plus du tout avec le petit. Et donc, on doit vraiment s'adapter. Voilà. Et c'est comme ça qu'on vit. On vit comme ça, quoi.
Bernadette Francotte, de quoi les familles concernées par le handicap ont-elles le plus besoin aujourd'hui, finalement?
Nous, ce qu'on a vécu, c'est surtout le problème de vivre avec une chaise roulante. Donc, maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais ça doit encore s'améliorer. Hein.
Ça, c'est sur le plan plus pratique. Oui. Sinon, au niveau des mentalités... Est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent évoluer?
Certainement, hein, donc parce que comme Marie-Claire le dit, on vit avec la personne. Au fur et à mesure, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne sait pas faire. Et les personnes qui ne connaissent pas donc l'handicapé doivent un peu chaque fois s'habituer à la situation.
Marguerite de Koning, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça?
Quand je pense à Gabrielle dans le livre, ce qu'elle souhaiterait, c'est d'avoir plus d'aide, plus de relations autour d'elle. Je pense qu'elle souffre beaucoup de solitude parce que elle a déjà 65 ans et donc elle doit être aidée tout le temps, mais ce n'est pas toujours des personnes avec qui elle a une relation suivie. Elle vit seule dans son appartement, mais comme elle est complètement dépendante, elle a une soif de rencontre et donc d'avoir des relations comme si elle n'avait pas cet handicap. Donc, par exemple, elle souhaiterait voir mes enfants, mes petits-enfants passer chez elle, ce qui n'est pas toujours réalisable. Mais on sent qu'elle veut garder un contact proche avec la vie de ceux qu'elle connaît.
Alors, vous plaidez aussi pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder, comme tout un chacun, à une vie affective et sexuelle. Alors, j'ai l'impression que sur ce plan, il reste encore beaucoup à faire, surtout au niveau des mentalités. Est-ce que vous confirmez ?
Oui, moi-même, je dois dire que j'ai fait une expérience samedi. J'ai eu l'occasion d'aller à un spectacle de cycle danse. Et c'était assez extraordinaire parce que je me suis trouvée, il y avait sur scène, je vais dire, un groupe d'une, je sais pas, ils étaient 16 personnes, forcément toujours une personne valide et une personne en chaise roulante, et ils évoluaient, ils dansaient, et à un moment, il y a eu un moment de solo entre une jeune fille qui était en chaise roulante. Je dis qu'elle était rwandaise parce que ça rajoute toute la grâce qu'elle pouvait avoir, même si elle était en chaise roulante, c'était assez remarquable, et elle a fait un solo avec un jeune homme, et c'était toute une histoire d'amour, il lui a porté une rose, etc. Et bien là, j'ai vraiment ressenti tout ce qu'on avait écrit dans ce chapitre, que je n'avais pas connu de la même façon, en me disant, mais oui, il y avait quelque chose qui se passait entre eux. Et on sent que, à la limite, bon, elle était dans chaise roulante, ça se voyait presque à peine, je vais dire, parce que tout ce qui se dégageait d'affection et de tendresse entre deux était bien au-delà des roues.
Dans votre livre, vous abordez un thème qui n'est pas souvent traité dans ce genre d'ouvrage, celui de la spiritualité, de la quête de sens. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise justement la quête de sens des personnes handicapées ?
Dans le cas de Geneviève, certainement. Je pense qu'elle a trouvé le sens. À travers sa vie, à travers ses expériences, elle a trouvé un sens à sa vie, et c'est la foi qu'il est, donc une foi profonde. Et je pense que elle m'a beaucoup aidée aussi dans ma vie à moi, parce que à cause de l'expérience qu'elle a, les multiples expériences de rencontres, de vie, de souffrances qu'elle a vécues, elle a toujours une façon de voir les choses très sûr et très juste.
Avec Claire Toussaint, avec votre petit-fils.
Je ne vais pas dire à proprement parler une recherche, parce qu'il ne sait pas l'exprimer par rapport à ça. Mais je constate que c'est un enfant qui est heureux de vivre. Je constate aussi qu'il a tout un aspect contemplatif par rapport à la nature, par rapport au jardin, par rapport aux personnes. Il n'a pas tellement envie d'entrer en action, de faire des jeux, tout ça. Il a autant de plaisir et autant de joie à regarder les autres jouer et s'amuser que de participer lui-même. Mais voilà quoi, par rapport à la question, lui-même n'en a jamais rien dit. À la limite, c'est plus nous qui devons trouver un sens. Mais voilà, lui-même, il est très très conscient d'avoir des difficultés. D'abord parce qu'il constate à l'école que certains entendent ou que certains n'entendent pas, que lui ne marche pas, que d'autres marchent, que certains lisent, que d'autres ne lisent pas. Donc ça, il est très conscient de ça. Mais il est heureux comme ça. Il est heureux avec qui il est. Et ça, je trouve que c'est, à la limite, c'est le plus beau sens de la vie.
Alors justement, nous arrivons tout doucement à la fin de l'entretien. Je voulais vous poser la question à chacune d'entre vous. Est-ce que votre regard sur la vie, finalement, a-t-il changé au contact de ces personnes handicapées que vous avez fréquentées de près ? Je vais commencer par vous, Marguerite de Koning.
Oui, mon regard sur la vie a changé dans le sens, disons, quand je prends Geneviève, suite à cette interview, ça m'a fort rapprochée d'elle et je comprends mieux ses difficultés, ça a créé une plus grande proximité. Et c'est vrai qu'avec mon frère Paul aussi, j'ai eu beaucoup des liens d'affection très profonds. C'est vrai que le fait d'avoir un frère handicapé m'a beaucoup aidé à avoir la vie avec espoir et courage. Quand j'ai vu son courage et sa foi à lui.
Bernadette Francotte.
Mais disons que nous, en tant que parents, ce qu'on a voulu donner, c'est l'amour pour la petite. Et disons que voilà, j'ai voulu continuer à pouvoir aider, porter. Et c'est pour ça que j'ai accepté de participer au livre, pour donner nos expériences à d'autres personnes qui sont dans la situation maintenant.
Et vous, Marie-Claire Toussaint ?
Mais d'abord, moi, je pense que ça m'a enlevé certaines certitudes. Je vais pas dire que ça déstabilise un petit peu, forcément. Mais quelque part, on croit savoir ou on imagine, et puis on se rend compte qu'on ne sait vraiment pas grand-chose. Ça m'a appris à repasser par le plus petit, découvrir de la joie à un tout petit progrès. Mais quand je dis un tout petit progrès, on n'imagine pas quand on n'est pas devant la situation, on voit les enfants évoluer, tout ça. Or ici, ben, on est content, même si, par exemple, il lui a fallu 6 mois ou 8 mois pour voir. On sait bien que tous les enfants voient vers 3 mois, mais bon, on a eu besoin de plus de temps. On a toujours attendu qu'ils s'asseyent ou qu'ils se mettent debout, mais ça, bon, c'est jamais arrivé. Mais voilà. Mais alors, quand il y avait un tout, par exemple, quand il a commencé à parler, un tout petit mot, une toute petite chose, c'est déjà un bonheur. C'est un bonheur pour lui, c'est un bonheur pour nous. Ça, c'est une première chose. En plus, il est venu à la maison très très régulièrement et même passé les nuits, donc on s'est beaucoup occupé de lui, certainement pendant 10-12 années. Bon, maintenant, il est plus grand et le porter devient beaucoup plus difficile, donc les choses ont un peu changé, mais jusque l'année passée. Et je n'ai jamais pensé pendant tout ce temps de tout ce qu'il développait et de tout ce qu'il m'apprenait. Et au fond, c'est par le biais de ce livre que j'ai ouvert un peu les yeux, en me disant, mais au fond, d'avoir vécu pendant 10-12 ans au quotidien, ça m'a permis d'écrire ce livre. Et alors, ce livre, c'est une grande ouverture, parce qu'on a un retour, enfin, j'ai un retour de nombreuses personnes, des personnes qui sont dans la même situation, mais qui n'osaient pas en parler, et qui, suite au livre, se disent, ah, mais toi, tu connais ça aussi, du coup, on peut parler à un tout autre niveau.
Voilà, je vous remercie toutes les trois pour votre témoignage. Je rappelle donc aux auditeurs que votre livre collectif s'intitule « Sur les chemins de la différence » et qu'il a été édité par les éditions Don Bosco et les éditions du Cygne. Un tout grand merci. Au revoir.
Merci, monsieur.